Direct en jeu de Radio Insolite, le 29 février 2020, nous avons voulu marquer le coup en lançant un nouveau slogan qui s'appelle « Toute vérité est bonne à dire ». À ce titre-là, on a l'habitude de traiter des sujets qui sont des sujets parfois très vrais et d'autres qui sont parfois très chauds. Et là, je suis très heureux de, comment je pourrais dire, de rencontrer, de découvrir, d'accueillir le fameux Jean-Paul Gustin. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Alain.
Alors, tu es un humaniste, tu es un bon vivant, tu es quelqu'un aussi qui vit avec ton temps. Et puis, surtout, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire quand on va sur ton profil Facebook. Et je ne fais que lire la photo que tu as mise. Je préfère vivre en optimisme et me tromper que vivre pessimiste et avoir toujours raison. Waouh, oui. Tu décapes, dis donc.
C'est quelque chose de très fort pour moi et je pense que c'est une phrase que tout le monde devrait avoir chaque jour pour lui ou pour elle.
C'est afin d'éviter de l'interpréter, est-ce que tu peux, elle se décompose en deux. Je préfère vivre en optimisme et me tromper que vivre en pessimiste et avoir toujours raison. Ça veut dire quoi? Je préfère vivre en optimisme et me tromper.
Ben, je pars du principe que bien évidemment la vie est faite de belles choses et aussi de temps en temps de choses un peu plus compliquées. Mais j'ai toujours par principe de me dire que quand un problème se met face à moi, c'est qu'il y a une véritable raison et que je dois apprendre quelque chose dans ma vie. Donc je préfère prendre mon problème de façon optimiste pour pouvoir le régler de la meilleure des façons que de toujours être pessimiste et me dire pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres, etc., etc., et de me morfondre après dans quelque chose de négatif. Donc je préfère, comme on dit généralement, boire le verre à moitié plein que de le boire à moitié vide. Ça me permet de beaucoup mieux avancer en fait.
Ouais, mais la vie, c'est pas, il n'y a pas de hasard donc dans la vie.
Non, pour moi il n'y a aucun
hasard. Waouh.
Pour moi il n'y a aucun hasard dans la vie. Tout ce qui doit se faire se fait. Donc s'il y a quelque chose de compliqué dans ta vie, il faut que on m'a toujours dit dans la vie il faut marcher droit. Et moi j'ai toujours répondu ok, si je vais tout droit, au bout d'un moment je vais me retrouver face à un mur. Et comment je fais pour éviter ce mur? Eh ben je suis obligé de partir à droite ou à gauche. Mais après, je me retourne et je vois bien que j'ai passé ce mur-là. Donc, je garde cette idée-là et je me suis fait cette philosophie et je la changerai pour rien au monde parce qu'elle me permet de régler beaucoup, beaucoup de choses dans la vie et de manière très simple, sans bouffer mon énergie.
Bon, allez, je vais être positif. Je voulais te féliciter.
Merci.
Parce qu'il y a une erreur sur ta page Facebook.
Ah.
Il y a marqué « Sophrologue en formation ». C'est pas vrai, t'es diplômé?
Oui, mais effectivement, je suis diplômé et je suis diplômé surtout en psychopraticien en thérapie cognitive et comportementale.
Tu me le refais une deuxième fois, s'il te plaît. Diplômé en quoi?
Je suis diplômé en thérapie cognitive comportementale.
Où est le décodeur?
En fait, si tu veux, c'est une partie qui est très utilisée par les psychologues, donc on est reconnu comme psychopraticien, c'est pas évident à dire, et en fait, on travaille sur les émotions des gens, et Dieu sait qu'en ce moment, les émotions, c'est pas ce qui manque, et en fait, on travaille sur les connexions que tu peux avoir dans le cerveau, qui peuvent être erronées, alors tu verras, j'emploie très souvent ce mot-là, et je n'emploie pas le mot « problème » ou « négatif », parce que je me dis qu'une émotion ne peut pas être négative ou une émotion ne peut pas créer un problème, c'est une émotion erronée. Et donc, à partir du moment où je travaille sur une émotion erronée, je peux faire en sorte que cette émotion devienne positive et acceptable pour le patient. Voilà, donc on travaille sur la psychologie du patient.
D'accord. Tu as un chiffre symbolique qui est le chiffre 7.
Oui.
Ce sont les 7 règles de la vie. Alors, le premier, par exemple, c'est « Fais la paix avec ton passé ». Le 6e, arrête de trop penser. Et le 7e, souris. Waouh.
Ouais.
Alors, je tiens à rappeler simplement à tous mes auditeurs, vous savez que, évidemment, 99,99% de mes invités ne sont pas au courant des questions que je pose et je ne leur dis pas où est-ce que je vais chercher mon inspiration. C'est tout. Alors là, je vais le dire parce que tu dois t'en douter, c'est simplement une photo qu'il a mise sur sa page Facebook, les 7 règles de vie. Alors je le fais. Hein. Le premier, fais la paix avec ton passé. Le deuxième, ce que les autres pensent de toi n'est pas ton problème. Le troisième, le temps soigne presque tout. Le quatrième, personne n'est en charge de ton bonheur, sauf toi. Le cinquième, ne compare pas ta vie à celle des autres et ne la juge pas, tu ne connais pas leurs épreuves. La sixième, arrête de trop penser. La septième, souris, tu ne portes pas tous les problèmes du monde sur le dos. Alors.
Exactement.
Sept.
Exactement. C'est pour moi les sept piliers de ta vie personnelle.
Ouais, tu me permets, je connaissais les sept péchés capitaux, par contre je connaissais les huit merveilles du monde, donc pourquoi le chiffre 7?
Alors pourquoi le chiffre 7? Ben, tout simplement parce que dans une semaine, tu as 7 jours, donc tu as 7 jours pour réfléchir à ces 7 règles-là, tout simplement. Et ni plus ni moins, le cerveau, il faut comprendre une chose, c'est que le cerveau ne comprend qu'à partir de la troisième fois. Et en fait, si tu allais puiser dans ma page Facebook, tu as vu que j'ai fait un challenge qui s'appelle le challenge de 21 jours pour optimiser son cerveau.
Oui, oui, tout à fait.
7 fois 3.
Mm-hmm.
Voilà, 3 fois pour que le cerveau comprenne, et 7 parce que bah, je me suis dit que dans une semaine, il y avait 7 jours. Et comme il faut qu'il comprenne au bout de 3 fois, bah, on va faire ça 3 fois pendant 7 jours.
Et est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est spécifique par rapport à notre évolution ? Parce que j'ai l'habitude souvent de rappeler qu'en 69, bah, on a vu le premier homme sur la Lune, on a vu la télé couleur arriver, on a vu les radios FM, etc. Est-ce que c'est le développement de tout ces, toute cette numérique qui a fait que notre cerveau est moins habitué, non pas à réfléchir, mais à comprendre ?
Oui, exactement. On a trop assisté notre cerveau, je te confirme. On a trop donné d'assistance à notre cerveau. Et du coup, ben aujourd'hui, le cerveau est beaucoup plus, pas plus faible, hein, parce que c'est une machine extraordinaire, le cerveau, qui peut être très stupide quand il en a envie, mais c'est une machine extraordinaire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'entraîne plus assez notre cerveau à avoir cette fameuse mémoire vive qui, effectivement, était beaucoup plus puissante à l'époque.
Est-ce qu'on n'a pas développé d'autres compétences, d'autres qualités ?
Si, on est beaucoup plus réactif, on est dans la réaction. On est aujourd'hui, l'humain est beaucoup plus réactif, et ce qui crée aussi malheureusement, quand on est trop réactif, des fois on est trop impulsif, forcément, et des fois on est beaucoup moins réfléchi, mais par contre on va beaucoup plus vite, on avance beaucoup beaucoup plus vite.
Mais il y a un mais. Moi, souvent, j'ai l'habitude de dire qu'en ce qui nous concerne, on en fait moins, mais on va dans l'alphabet de la lettre A à la lettre Z. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui font plein de choses, mais qui parfois, malheureusement, n'aboutissent pas au final, malheureusement.
Je te rejoins tout à fait. On brûle des étapes.
Donc, diplômé, tu as lancé, comment est-ce qu'on appelle ça, un cabinet, un bureau, comment est-ce qu'on peut appeler ça?
Non, on appelle ça un cabinet. Hein. J'ai ouvert mon cabinet, effectivement, début novembre. Je ne m'attendais pas, très honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir des retombées telles que je les ai aujourd'hui. Inquiétant ou pas, je ne sais pas. Ça, je n'arrive pas encore à définir la chose. Mais les gens aujourd'hui, avec ce que l'on connaît malheureusement depuis cette année 2020, les gens ont besoin de venir pour pouvoir, j'allais dire, soit se construire ou se reconstruire, mais de se retrouver soi-même. Aujourd'hui, les gens sont complètement perdus. Et le fait de travailler ensemble en consultation, les gens, alors je leur dis toujours que je suis pas Harry Potter, j'ai pas de baguette magique à dire que ça se fait en une séance. J'aimerais bien, mais je ne l'ai pas encore. Et je t'avoue que je ne souhaite pas l'avoir parce que je m'enrichis aussi de tout ce que les gens m'apportent. Ça, c'est super important. Mais aujourd'hui, avec la thérapie cognitive, en fait, on est sur des thérapies brèves de 6 séances. Et j'ai vu des gens sincèrement se métamorphoser. Le mot est peut-être puissant, mais il est réel. Au bout de la 6e séance, et de se dire « Ah ouais, j'existe. J'ai confiance en moi et j'avais pas cette confiance en moi. » Wow. Et aujourd'hui, j'ai même une patiente qui m'a dit « Vous savez, Jean-Paul, on ne pourra pas me voler ma liberté. » Et là, je crois que tout était dit.
Tu as cité... Excuse-moi, hein, j'ai pas ça, c'est entendu. Je fais « Waouh, t'as cité un mot fort, c'est « j'existe ». On en est à ce point-là ?
Oui, les gens aujourd'hui n'ont plus confiance en eux, ils ne se sentent plus exister. Ils ne se sentent plus exister. Et alors, j'allais dire, je n'aime pas trop en parler, mais hélas, on est dans la vérité. Aujourd'hui, les confinements, enfin, les différents confinements qu'on a eus, les restrictions qu'on a pu nous mettre, les gens se sentent prisonniers.
Totalement.
Ils ne se sentent plus eux-mêmes.
Complètement.
Tout simplement.
Tout à fait.
Voilà. Mmh. Et aujourd'hui, tant mieux pour moi, et je touche du bois, et pour mes collègues qui sont comme moi dans ce milieu-là, on a l'avantage de pouvoir rester ouvert. Et je me dis, au moins, on amène, que ce soit mes collègues ou moi, peu importe, mais on amène au moins du positif à cette situation compliquée.
Des gens. Je dis pas tant mieux, je dis pire encore. Heureusement que vous êtes là, puisque on n'a pas le droit de chanter, on n'a pas le droit d'aller voir du spectacle, on n'a pas le droit d'avoir des émotions, on n'a pas le droit d'aller au cinéma. C'est ce qui est complètement incompréhensible. Et j'apprécie de t'accueillir, c'est que moi je me rappelle que dès le 15 mars, donc troisième ou quatrième jour de confinement, on avait fait une émission sur la santé mentale. Et j'ai du mal à comprendre qu'on ait pu oublier que ces grands donneurs de leçons là, tous ces médecins qui passent à la télé, et puis oublier ce type de choses et qu'ils en parlent depuis une quinzaine de jours. La santé mentale, c'est important. Le truc et astuce que tu pourrais donner, toi, avant de parler du sujet, qui est un sujet chaud, mais qu'on va aborder, le truc et astuce, c'est quoi? C'est d'écrire de la poésie, c'est d'écouter de la musique, c'est de peindre, c'est d'aller dans la forêt et d'enlacer un arbre, parce qu'il paraît que c'est aussi quelque chose de bien, c'est faire de la cuisine, c'est quoi?
Ouais, alors tu as donné beaucoup d'astuces. Alors après, d'aller enlacer un arbre, voilà, chacun y voit ce qu'il veut. Moi, personnellement, non, c'est pas ce que je fais, mais déjà, tous les matins, je me lève en me disant, aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Voilà, déjà, rien que ça. Donc déjà, tu te mets du positif rien qu'en te levant. Mais oui, tu as raison, et on ne peut pas se priver de la musique, on ne peut pas se priver des spectacles, on ne peut pas se priver de rire. Mais faites-le chez vous. C'est tant pis. On souhaite nous priver de liberté. C'est leur choix, c'est pas le mien. Donc moi aujourd'hui, la télé est éteinte. Peu importe la journée, mais la télé est éteinte du matin au soir. Mm-hmm. Par contre, ma musique, elle, m'accompagne tous les jours. Différentes musiques, parce que j'aime écouter différentes typologies de musique. Et c'est ce qui m'accompagne. Mais effectivement, t'as d'autres personnes qui vont avoir besoin de lire parce que tu te retrouves dans des lignes, des écritures, etc. Ou comme là, partager un moment avec toi, tu vois, pour moi, c'est un moment extraordinaire, extraordinaire. Mais surtout pas couper ce lien de liberté qui est le vôtre et qu'on ne peut pas vous enlever. Surtout pas, surtout pas. Donc, gardez en mémoire tout ce qui est bon pour vous. Ça vous plaît d'écouter de la musique, allez écouter de la musique. Demain, il n'y aura plus d'attestation. Il y aura un couvre-feu, c'est vrai, mais il n'y aura plus besoin d'attestation à partir de demain, normalement. Mm-hmm. Mais sortez, allez en forêt, effectivement, allez vous balader, rien que de marcher une demi-heure et de ne penser à rien, marcher avec la musique dans les oreilles. Mais rien que ça, ça va vous aérer le cerveau, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mmh. Donc faites-le, ne vous privez pas.
Ouais, permets-moi juste de préciser qu'en effet, demain, on sort du confinement dans sa partie, on part sans couvre-feu, mais évidemment, les attestations, il les faudra après 20h, puisque logiquement, on n'est plus censé traîner dans la rue à 20h, donc ça, c'est important. On en arrive donc à un article qui est paru la semaine dernière dans le Progrès et un sujet. Alors moi je vais commencer, comment dire, en essayant d'être neutre, mais c'est un sujet qui existe depuis des décennies et je trouve assez extraordinaire qu'on en parle. C'est comme les féminicides, hein. Tous les ans il y en a autant. Mais on en parle et puis il n'y a rien qui avance. Et là, tu as sorti, donc tu as répondu à une interview avec un sujet particulier. Quel est ce sujet et pourquoi as-tu décidé de le mettre au goût du jour?
Là, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et c'est le harcèlement scolaire. Et pourquoi le harcèlement scolaire? Je pense que tu as dit beaucoup de choses. Ça fait des décennies que ça existe, ça fait des décennies qu'on se cache derrière ce mot-là, le harcèlement scolaire, et pourtant il existe, et c'est 700 000 élèves par an qui sont victimes du harcèlement scolaire. Et pourquoi j'ai voulu... j'en fais mon cheval de bataille, hein, très clairement. Mm-hmm. C'est ma priorité aujourd'hui, dans l'accompagnement que je souhaite mettre en place, parce que tout simplement, ma fille de 14 ans, enfin qui a 14 ans aujourd'hui, a été victime du harcèlement scolaire depuis le CM2. Donc le harcèlement scolaire existe depuis le primaire. Donc, et le problème, c'est que les enfants ne souhaitent pas ou ne veulent pas en parler de peur de représailles, de peur d'être fichés, très clairement, parce que les enseignants ne sont pas formés à ça, et ça, c'est dramatique. Les directeurs d'écoles, de collèges, de lycées ne sont pas formés là-dessus. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ne comprennent pas les enfants qui sont en souffrance et qui viennent les voir. Et ils disent régulièrement, t'entends dire, oh, t'en fais trop, il faut prendre du recul, etc., etc. Mais le harcèlement scolaire, c'est pas que être tapé, c'est pas que du harcèlement physique, c'est du harcèlement moral, avec des mots de plus en plus durs. J'ai reçu un petit patient la semaine dernière. Les mots que cet enfant m'a sortis, mais c'est d'une violence extrême comme je ne l'ai jamais entendu. Et la problématique, c'est que nous, on a souffert avec Anaïs, donc, qui est ma fille, qui malheureusement a caché ça pendant 2 ans. On l'a découvert au collège très tardivement, malheureusement, parce qu'on a retrouvé notre fille enfermée dans la salle de bain, les bras lacérés. C'est comme ça qu'on a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Et effectivement, quand on a remonté le fil de cette histoire, c'était allé très très loin. Et aujourd'hui, voilà, on a reconstruit notre fille grâce notamment à un système scolaire qui s'appelle la MFR, hein, qui sont les maisons familiales rurales, qui aujourd'hui ont reconstruit très clairement ma fille. Donc, il y a des solutions, mais il faut surtout apprendre à écouter son enfant. Mais à ne pas que ne pas que apprendre à écouter, mais à apprendre à voir les changements qu'il peut y avoir chez son enfant. Et dès qu'il peut y avoir une alerte, surtout ne pas hésiter, me contacter ou d'autres, hein, parce que je suis pas tout seul, hein, il y a des associations qui sont aussi sur Lyon, mais ne pas hésiter tout de suite à tirer une sonnette d'alarme. Et nous, on est là pour comprendre justement les comportements des enfants et de dire si oui ou non. Oui ou non, l'enfant est victime d'harcèlement scolaire. Et le harcèlement scolaire commence, c'est extraordinaire parce que ça, très peu de monde le sait, le harcèlement scolaire commence dans les transports en commun et en dehors de l'école. Et ça, personne ne met le doigt dessus.
Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, si je puis me permettre. Nous sommes dans décembre 2020. Tu représentes l'association Marion La Main Tendue. Et
Tout à fait.
l'histoire de Marion, elle date de février 2013. Ça fait 7 ans. Et puis,
Oui.
on pourrait donner plein d'autres exemples d'avant.
Bien sûr.
Enfin, quand on parle de harcèlement scolaire, on parle de l'école. Il y a les profs, il y a les CPE, il y a les proviseurs, il y a tous ces gens qui ont l'habitude de pratiquer les jeunes. On ne peut pas les voir, nous, parents. C'est compliqué déjà d'être papa ou d'être maman. Comment ça se fait qu'on puisse en arriver à ça? Et comment ça se fait aussi qu'un enfant puisse garder cette souffrance en lui sans communiquer?
Alors, déjà, le premier point, comment ça se fait qu'effectivement les profs ne voient pas ça? C'est ce que je t'ai dit, c'est qu'ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés à travailler justement sur le comportement des enfants. Ils ont des grandes lignes par rapport effectivement à la vie scolaire, à l'enseignement, mais ils n'ont pas cette formation pour pouvoir déceler effectivement ce que peut être le harcèlement scolaire. Et en ce qui concerne les enfants, c'est ce que je t'ai dit, c'est simplement qu'ils ont peur de représailles et du coup ils se murent dans un silence total. Voilà, et ça c'est très compliqué, très très compliqué, parce qu'ils ont peur que ça aille beaucoup plus loin. Et malheureusement, tu l'as dit, en ce qui concerne Marion, c'est allé très loin, puisque Marion malheureusement n'est plus là, mais il y a eu d'autres cas, il y a eu beaucoup d'autres cas comme ça. Et il faut plus qu'on justement il faut que nous on sensibilise de plus en plus les établissements scolaires à dire, mais on vient chez vous, on vous fait une formation, parce qu'on est capable de les former, on est formé pour ça nous-mêmes, donc on est capable de former le corps enseignant et de dire, attention, veillez à certains changements, les notes qui baissent, le manque d'inattention. Il y a plein de petits phénomènes comme ça.
Tout à fait.
Et malheureusement, on catalogue du coup l'enfant en disant, oh, il fout plus rien, voilà.
Ah ben
Il a plus
c'est une
envie.
alerte. C'est une alerte, ça
C'est
c'est
une
clair.
alerte, c'est une véritable alerte, et sauf que les enseignants ne sont pas formés à réagir de la bonne façon, malheureusement. Et on catalogue tout de suite l'enfant.
Mais pour revenir sur Anaïs, si tu me permets, ce qui m'a un peu
Bien sûr.
surpris aussi, c'est C'est le deuxième paragraphe de l'article où là, carrément, le raisonnement, ça a été de dire « elle a dû être déscolarisée ».
Oui.
C'est à ce point-là, c'est...
Ah oui, 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 c'est à ce point-là. Hein.
On est bien d'accord, quand j'entends déscolariser, ce n'est pas changer d'établissement, c'est carrément sortir du système pour l'envoyer, comme tu l'as dit, dans le réseau des maisons familiales rurales.
Oui, tout à fait. Mais non, alors on l'a déscolarisé complètement pendant quasiment une année scolaire.
Ah mais plus du tout, plus rien.
Ah ben non, c'est nous qui lui faisions, on lui a fait l'école à la maison, donc il a fallu qu'on s'adapte avec mon épouse, etc. Mmh. Donc on a eu, une aide de l'académie, hein, il faut pas non plus, attention, on n'est pas des surhumains non plus, mais voilà, on nous a mis à disposition tout ce qu'il fallait pour qu'Anaïs puisse avoir un minimum de scolarité et avec des évaluations qu'on envoyait chaque semaine, etc. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, Anaïs remonter au niveau de ses notes. Il y avait une véritable... il y avait une renaissance.
Elle était en sécurité.
Elle était en sécurité, mais ça, c'est à double tranchant. C'est que du coup, Anaïs n'avait plus de vie sociale.
Ah oui, exact. Et oui, plus d'échanges.
Et c'est ça qui est grave. Mmh. C'est ça qui est grave. C'est que l'enfant se mûre du coup, il s'isole complètement et ça part dans les jeux vidéo, les machins. Et là, tu as un enfant qui se déconnecte complètement. Et là, je t'en parle en connaissance de cause, Anaïs a repris donc la MFR à la rentrée du mois de septembre, mais c'est un changement extraordinaire, extraordinaire. Et là, les enseignants là-bas, qui d'ailleurs, ils ne les appellent pas des enseignants, ils les appellent des formateurs, ont une pédagogie extraordinaire avec les enfants. Extraordinaire. Mmh. Et on a une fille qui enfin s'épanouit dans sa vie sociale. Et ça, c'est, pour nous, c'est le plus beau cadeau. C'est la plus belle récompense qu'on ait eue.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ce qui est en train de se passer depuis le mois de mars, c'est-à-dire le décrochement scolaire? Parce que là, c'est vrai que dans les contextes de cette année 2020, c'est peut-être pas. Je me demande même parfois si c'est pas du harcèlement que de dire voilà, il n'y a plus de présentiel, on fait tout en virtuel, il n'y a plus de stage, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'échange. Est-ce que tu constates aussi ce fait que ces jeunes soient complètement perdus aujourd'hui? Ils vivent une situation que nous, on n'a jamais vécue. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un peu de recul en ce qui nous concerne, on a le recul de la vie. Est-ce que tu constates ça dans ton cabinet?
Ah il y a un décrochage scolaire, ça c'est une certitude, parce que l'assiduité, si tu veux, de l'élève derrière un écran n'est pas présente, d'accord? Parce que l'élève peut très bien couper le micro, à côté de ça, se mettre un dessin animé, enfin je vais dans l'exagération, mais on l'a constaté. Donc, si tu veux, le prof parle dans le vide, très clairement, pour une grosse partie des élèves. Ou alors, tu as carrément des élèves qui ne se présentent pas du tout à la visio. Donc oui, il y a un véritable décrochage scolaire. Mais au-delà de ça, je reviens encore sur ce mot qui me tient à cœur. Il y a un véritable décrochage sur la vie sociale. Il y a un vrai décrochage là-dessus aussi. Et là, on est en train de mettre nos enfants dans un monde virtuel qui n'est pas réel, vraiment... C'est pas ça, la vie, c'est pas ça, on fait pas de la visio, c'est pas possible. Même moi, j'ai essayé d'en faire pour mon cabinet, je peux te garantir que tu n'as pas du tout les mêmes sensations, tu n'as pas les mêmes ressentis, tu ne travailles pas de la même façon. Donc tu baisses ton niveau de compétence, ça c'est une certitude. C'est une certitude, mais le plus grave, c'est ce lien social qui est en train de se perdre. Ça, c'est le plus grave.
J'avais envie de te poser une question très, très basique qui me vient comme à l'esprit. L'école, c'est important. Elle est très basique, mais franchement, c'est... Parce que bon, on rentre quand même. Le mien, il est rentré, il avait 3 ans. Et on est sorti, il avait 22 ans. C'est une sacrée partie de la vie. C'est le début de la vie, quoi.
Oui, il y a besoin d'avoir une base. Maintenant, de dire que l'école est importante, oui, c'est important, mais ce qui serait bien, ce serait peut-être de changer un peu ce système. Et on formate trop nos enfants. Les enfants sont trop formatés. Et quand ils rentrent dans la vraie vie, dans la vie du boulot, hein, de la vie active, etc., en fait, ils sont complètement perdus par rapport à ce qu'ils ont appris à l'école. Et ils se disent, mais attends, je comprends pas, à l'école on m'a appris ça, et là on nous donne d'autres formules, on comprend pas. Donc ils sont perdus, et on formate trop nos enfants, Et c'est pour ça que, alors, je suis désolé si je vais choquer du monde, et je m'en excuse auparavant, mais pour moi, je pense qu'il faut, il faut pas hésiter à mettre son enfant dans un milieu professionnel, enfin scolaire professionnel, je m'entends,
ouais.
par un CAP, un BEP, un bac pro.
Alternance.
Mais voilà, en alternance, et effectivement, tu as entièrement raison, Alain. Là aussi, j'ai un exemple concret. Ma grande Pauline a 17 ans. Elle est arrivée à un moment donné dans le cursus général où elle s'ennuyait alors qu'elle avait 16,5, 17 de moyenne générale.
Mmh.
Elle m'a dit, papa, je m'ennuie, je n'ai plus envie d'apprendre. Et elle m'a dit, je veux apprendre un métier tout en continuant l'école. Elle est partie en alternance. Il a fallu qu'elle... Bah, tant pis, hein, elle a recommencé un peu, on a reculé un peu, mais c'est pas grave. On a reculé pour mieux avancer, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, en alternance, l'enfant est épanoui. Elle apprend du scolaire, etc. Mais elle apprend un métier. Elle apprend un métier. Et ça, mais c'est riche pour l'enfant. Parce qu'il voit aussi ce qu'est la vraie vie. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, surtout demain, si... un enfant vous dit « je veux faire de la mécanique, j'ai envie de partir en prépa pro, etc. » Ne lui mettez pas de barrière, laissez-le partir dans ce domaine-là et vous verrez qu'il va s'épanouir et qu'il aura de très très bonnes notes parce qu'il sera intéressé par ce qu'il fait.
Vincent Niclot qui était sur France 2 dans la nouvelle émission de Faustine Bollaert il y a 15 jours, moi je l'ai visionné et puis je passe mon temps à revisionner ça parce que à un moment on lui a dit mais pourquoi vous avez décidé de prendre le risque d'aller faire de la chanson, la chanson c'est pas un vrai métier, et il a simplement expliqué qu'à un moment donné il s'est retourné vers sa maman, il lui a dit maman laisse-moi vivre mon rêve, si je me plante c'est moi qui me planterai, laisse-moi vivre mon rêve. Et Vincent Niclot est ce qu'il est aujourd'hui. Souvent on a l'habitude de dire que la passion amène le talent et le talent permet facilement de trouver. Est-ce qu'il y a avec l'association, quelle est cette idée d'aller créer une maison je sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer ça. La maison de Marion. Comment est-ce qu'on peut présenter la maison de Marion?
La maison de Marion, c'est un tout. C'est pas qu'une maison où on reçoit des gens pour écouter les gens, l'enfant, les parents, parce que les parents sont très affectés aussi par le harcèlement scolaire quand ils le découvrent.
Tout à fait.
Ils ne savent pas comment agir.
Mmh.
Non, la maison, c'est de dire, on vous écoute, mais on va vous accompagner. Donc, on les accompagne avec, bien évidemment, la mise en place d'un suivi psy, etc., pour que l'enfant revienne sur des bonnes bases et que les parents, eux aussi, reviennent plus je dirais, dans une normalité de vie et pas dans cette frayeur. Mais on les accompagne aussi sur un plan juridique selon les problématiques rencontrées. Donc, on a des avocats, des juristes avec nous. Et du coup, on va plus loin dans les démarches. Si, par exemple, ça va très loin, comme bon, il y a du harcèlement scolaire, mais il y a aussi le revenger porn, etc., qui est très, très à la mode en ce moment.
Excuse-moi, c'est-à-dire ? C'est quoi ?
Alors, en fait, c'est les fameuses, en ce moment, tu sais, avec les réseaux sociaux, ça va très, très vite. Et en fait, c'est des images volées, hein, très clairement, ça s'appelle comme ça. Par exemple, une jeune fille ou un jeune garçon, peu importe, se prend de manière dénudée en photo pour son copain ou sa
copine. Quelle erreur.
Et oui, qui est une énorme erreur, hein, je confirme, surtout à ne pas faire.
Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire ça ? Là, j'ai aussi un peu de mal à comprendre parfois.
Ah, mais moi aussi, je te rassure. Je te rassure.
Mmh.
Et le problème, c'est que du coup, bah, quand du coup, le copain ou la copine viennent à se séparer, bah, pour se venger, ils envoient les photos sur les réseaux sociaux et là, c'est pouf ! Là, c'est l'hécatombe, ça part dans tous les sens.
Alors,
part dans tous les sens.
Attention, là, je vais poser la question aux représentants de l'association Marion La Main Tendue pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et la police et la justice dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait rien ?
Ben, si, justement, c'est là. Ben, si tu veux, le problème, c'est que les parents sont tellement perdus dans les démarches qu'ils ne savent pas comment agir et quel mot mettre, si tu veux, quand tu dois aller déposer une plainte ou machin, etc. Il y a des mots à mettre sur les plaintes.
Oui.
Et c'est là où nous, on les accompagne en disant, attention, voilà, il faut expliquer les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et la justice aura une véritable action. Et de dire, à un moment donné, la photo est partie de là vers telle personne. Donc, l'instigateur de ça, c'est telle personne.
Mm-hmm.
Donc, il faut, à un moment donné, dénoncer les gens.
Ouais.
Et c'est triste, hein, parce que je suis pas... il y a des moments où tu te dis, ouais, le problème, c'est que c'est un peu comme aux États-Unis. Maintenant, pour un rien, on dénonce les gens. Donc ça, c'est un peu compliqué.
Mm-hmm.
Un voisin fait, fait un feu de feuillage, on va le dénoncer parce que ça sent pas bon, ça fait trop de fumée.
Oui,
non, voilà. Mais
oui,
à un moment donné, il y a des faits très graves qu'il faut dénoncer.
Exactement, tout à fait.
Exactement. Et il faut mettre des vrais termes sur cette dénonciation. Et après, ben, nous, on les accompagne en disant, ne vous inquiétez pas, on sera avec vous, on va vous accompagner en tant que représentant. Et derrière, ben, ils savent qu'on a des démarches avec des avocats, etc. Donc là, la justice fait beaucoup plus rapidement son boulot, tout simplement. Parce qu'ils savent que derrière, il y a une armada de personnes qui sont prêtes à suivre.
Pour finir, alors une question, on va dire un peu sourire, un peu soleil, un peu positive. Qu'est-ce qu'il faut demander au Père Noël, même s'il n'a pas le droit de venir, il paraît, mais qu'est-ce qu'il faut lui demander pour 2021? Ah, je suis désolé, il paraît que, je sais même pas, on n'a pas le droit de faire des cadeaux. En tout cas, les cadeaux, il faut faire attention si on se les offre, parce qu'il ne faut pas des papiers cadeaux, etc. Voilà, voilà. Et puis bon, le Père Noël, s'il se fait attraper après 20h le 24 décembre, ben voilà quoi. Quoique non, je crois que le 24 décembre, il n'y a pas de confinement, pardon. Il n'y a pas de blague. Non, non, c'est vrai, le 24 décembre, il a le droit de courir jusqu'à minuit. Mais qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire, allez hop, on est le 14 décembre, on a encore 17 jours à vivre dans cette année fabuleuse, mais allez, le 1er janvier, on se lève et oui, c'est reparti. Qu'est-ce qu'on demande au Père Noël?
Ah ben, je vais te reprendre ma phrase du début, ou enfin, en tout cas, semblant de phrase du début. Vivez pour vous. Apprenez à vivre pour vous. Vivez pour vous. Ça, c'est le plus important. Et que le Papa Noël vous offre ce cadeau, cette conscience de dire, maintenant, je vis pour moi. Voilà, je vis pour moi et je vais avancer dans ma vie. Tout simplement. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Apprendre à vivre pour soi-même.
J'adore Tino Rossi. J'adore Maria Carré. Mais le 24 décembre au soir, moi personnellement, j'ai envie de me passer une musique qui a fait le tour du monde. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, à Corba. Est-ce que cette musique universelle qu'a représentée Jérusalem, ça peut être aussi une belle solution?
C'est une magnifique solution.